Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous. Avant de lancer l'émission, je fais juste un petit message pour vous rappeler que vous pouvez désormais soutenir le rendez-vous jeu. Vous pouvez aller sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission. Et vous pouvez contribuer à la hauteur que vous voulez, quelques dollars ou un dollar par épisode. Et vous avez, en plus du, comme je le dis souvent, du plaisir de contribuer à l'existence de ce podcast qui vous accompagne depuis 5 ans maintenant, le bonheur d'avoir des petits bonus, notamment l'accès au podcast privé et plein d'autres petites choses. Donc, si vous appréciez l'émission et si vous pensez qu'on fait un bon boulot, n'hésitez pas à passer sur patreon.com/rdvjeu. Je vous fais de grosses bises et je renvoie l'épisode spécial BlizzCon 2019 qui est un gros morceau. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu. C'est l'émission où on vous parle de tous les jeux vidéo, sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas tous les jeux vidéo et uniquement les jeux Blizzard, puisqu'on est en direct de la BlizzCon, ce qui explique ce son un petit peu différent. On a l'ambiance de la conférence, enfin de la salle de presse derrière nous. Je suis Patrick Béja et on vous parlait de toutes les annonces qui ont été faites aujourd'hui. On est avec Julien de Judge Heap, Manu de Judge Heap. Il y a quand même Alpha qui nous dit bonjour avant de filer voir la France qui est en demi-finale, j'ai failli dire quart.
Ouais, demi-finale contre la Chine, je suis désolé, j'aurais dû être là, mais là il faut aller supporter.
Oui, non mais je comprends tout à fait et je suis content que tu y sois parce que nous on n'y est pas, donc très bien, merci Alpha. Et on a aussi Zekaria qui, en fait c'est l'équipe qui est un peu là à chaque fois qu'on fait ces comptes rendus de la BlizzCon. Je vais aller dans l'ordre, Julien... Mon compagnon de BlizzCon depuis toutes ces années, comment tu vas ?
Je vais très bien, quand je te vois de toute façon, je vais mieux.
C'est réciproque. Manu, Lona, tu vas bien ?
Ah bah moi super, ouais. Très bonne BlizzCon jusque-là, donc vraiment bien. Ouais.
Ouais bah jusque-là, je pense que ça va plus trop changer vu qu'il est 5h le deuxième jour. Et Julien Zeka, ouais, t'es en forme aussi ?
Eh bah écoute, très bien, tout va bien, des belles annonces, le ciel est bleu, donc magnifique.
C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'annonces. On attendait une grosse BlizzCon et ça a été une grosse BlizzCon. On a eu, pour ceux qui l'ignoreraient, l'annonce de Diablo 4, Overwatch 2, une nouvelle extension pour World of Warcraft. Donc ça fait quand même beaucoup de choses. Et on, même s'il y avait les rumeurs qui nous laissaient penser que toutes ces choses allaient être annoncées, c'était quand même un gros morceau pour Blizzard et c'était un morceau où ils ne pouvaient pas se rater. Alors évidemment, il y a quelques semaines, le truc qui a un petit peu tout fait capoter, c'est-à-dire cet incident dont on a beaucoup parlé dans l'émission avec le tournoi de Hearthstone et Blitzchung. Bon, on en a déjà parlé, donc on va pas revenir sur les détails de ça, mais je pense que je vais commencer avec ce sujet, puisque c'est celui par lequel a commencé vraiment la conférence. Et il y avait de l'avis de la plupart des observateurs, ils devaient dire quelque chose sur ce sujet, et ils l'ont fait. Moi, je vais dire ce que j'en pense et puis je vais vous donner la parole. Mais c'est marrant parce que, en fait, avant la conférence, j'avais réfléchi à ce qu'ils pourraient faire et qui pourrait, moi, plus ou moins me satisfaire. Et bien sûr, il y a des gens qui seront jamais satisfaits, à moins qu'ils ne reviennent complètement en arrière. Et ça, c'était pas vraiment réaliste, ou qu'ils brûlent un drapeau de la Chine sur scène ou ce genre de choses. Bon. Quelque chose de plus définitif, à mon avis, n'était pas une attente vraiment raisonnable. Mais ce à quoi j'avais réfléchi, c'est-à-dire des excuses et puis le fait de dire de manière un petit peu oblique, il y a des gens qui sont là pour exprimer leurs opinions sur Hong Kong, et ben allez leur parler. Et évidemment, c'est quelque chose qu'on vous encourage à faire. Et c'est un petit peu ce qu'ils ont dit. C'est un petit peu ce qu'a dit Jay Allen Brack. Certains ont dit, ouais, c'est des excuses vides parce qu'ils n'ont rien changé. Moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis. Et je pense qu'il y avait quelque chose de suffisamment sincère derrière pour protéger leurs profits, évidemment. On est quand même dans ces contextes. Mais qui, moi, m'a fait penser à ce que j'évoque souvent, c'est-à-dire au moment du Gamergate. Ce n'est pas exactement la même chose, donc ce n'est pas tout à fait comparable. Mais au moment du Gamergate, Mike Morheim, qui avait fait une référence également un petit peu oblique, il n'a pas dit « Ah, les gens du Gamergate, c'est des sales cons ». Il avait dit « Il faudrait que vous soyez qu'on soit plus gentils entre nous dans la communauté des joueurs ». Et j'ai trouvé que c'était un petit peu dans la même veine, pas exactement. Donc moi, ça m'a laissé penser qu'on est dans une situation où le tournant peut être pris pour Blizzard et on pourrait, c'est pas encore fait, mais on pourrait repartir dans une ambiance, pour certains en tout cas, qui est plus positive pour Blizzard, parce que c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de coups durs ces derniers temps, causés par eux-mêmes, mais voilà, entre les annonces et ça, je pense que les conditions sont réunies potentiellement. Julien, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Julien P, qu'est-ce que t'en penses ?
Ah, je pense que c'était assez opportun de sa part de le faire en début de cérémonie. Bon, il n'a pas essayé de le cacher entre deux trailers qui déchirent. Donc, non, il a commencé avec ça. Donc, je pense que c'était assez sincère. On sentait quand même le personnage qu'on ne connaît pas encore très bien sur la scène de la BlizzCon. On le sentait presque un peu des sanglots dans la voix. Il sentait qu'il y avait un problème et que sa communauté avait un peu réagi contre lui. Et je pense que ça l'a touché. Et bon, c'est vrai qu'on peut toujours se dire, est-ce qu'il a joué un petit peu la comédie ou pas ?
Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il a été très bien médiatraîné ou est-ce qu'il a vraiment été sincère ? On ne saura jamais. Mais c'est vrai que dans l'assistance, on a ressenti une sincérité de la part de Jay Allen Brack qu'on n'avait pas ressenti jusque-là. Quoi.
Absolument. Oui, il a pris une autre dimension, je trouve, avec la cérémonie qu'il a faite vendredi. Donc, je pense que c'est fait de façon suffisamment importante que pour que... Voilà, il ne pouvait pas passer à côté, effectivement. Et le fait de l'avoir fait comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc, après, on verra s'il y a une suite à toute cette affaire.
Manu ?
Pareil, ça a été très. Je pense que ça a été très intelligent de commencer par la BlizzCon. C'est un peu mis le ton de la BlizzCon de dire dès le départ, on s'excuse, on pense qu'il faut écouter tout le monde. Il y a des gens qui ont différents avis. Il faut qu'on soit à l'écoute. Il faut qu'on puisse les accueillir aussi dans la communauté. Je pense que c'était très malin et je suis d'accord avec toi, Patrick. C'était très. Ça avait l'air très sincère. Alors, ensuite, est-ce que c'est joué ou pas ? Je sais pas. Mais la sensation que j'ai eue moi, quand je l'ai écouté, c'était que, ouais, effectivement, il était dedans. Et d'ailleurs, ça, je sais pas si des gens avaient prévu de faire des prothèses, des démonstrations, ce genre de choses, mais il n'y en a pas eu pendant la BlizzCon. Donc ça a plutôt bien marché en termes de communication. C'est un peu mis tout le monde en disant. Ok les gars, on est là pour les jeux, on va vraiment s'occuper des jeux et des jeux seulement. Et puis il y avait une compagnie en face de la BlizzCon qui vendait des t-shirts May avec Hong Kong, etc.
C'était des t-shirts gratuits, c'était des organisations qui sont venues manifester, ils étaient là les matins des deux jours. Et c'est vrai que bon, évidemment, ils étaient là et personne ne leur a dit de partir. Et ils ont pu parler à tout le monde et ils étaient même eux, c'est ça qui était marrant, dans une ambiance, je dirais... pas positive, mais enfin, il disait, on ne veut pas gâcher la fête des gens, mais on veut que vous nous écoutiez. Et Blizzard a fait ceci et cela, et donc, c'est un sujet important dont on veut parler. Et ils ont été entendus. Et il y a eu, je crois, la seule instance de manifestation dans l'enceinte de la BlizzCon, c'était pendant le question-réponse de World of Warcraft, où il y a deux personnes qui ont dit « Free Hong Kong ». Une ou deux fois ou trois fois. Et c'était intéressant parce que... Alors évidemment, ils les ont laissés parler. Ils n'allaient pas sauter dessus et les emmener Manu Militari hors de la conf. Mais ils les ont laissés parler. Donc ils ont dit Free Hong Kong, Free Hong Kong. Ils l'ont dit deux, trois fois. L'animateur, qui est un pote d'ailleurs, Taliesin, qui est un YouTuber, il a dit ouais, super, bravo. Mais sincèrement quoi. Ok, merci beaucoup. Et puis voilà. Et puis ça s'est passé comme ça. Et c'est vrai qu'au-delà de ça... on peut peut-être, on aurait voulu qu'ils annulent complètement le ban de Blitzchung, ce qui, là, je pense qu'on pourrait en discuter, mais c'est pas leur politique. Ils ont dit, bah, tous les discours politiques, on va mettre un ban, 3 ou 6 mois, on sait pas. Peut-être qu'ils changeront les choses à venir, mais voilà, s'ils vont pas plus loin, bah, je vois pas vraiment ce qu'ils pourraient faire de plus, à part partir de Chine ou ce genre de truc extrême, parce qu'ils ont laissé les gens s'exprimer, évidemment. Et puis, mais ça veut pas dire qu'à l'avenir, ils vont laisser les messages politiques dans les tournois, ce genre de choses. À mon avis, ça va. Enfin, ils vont les laisser et puis il y aura un petit ban, 3 mois, 6 mois, ce que c'est, quoi. Bon, on a un petit peu tout résumé, mais je te demande quand même, toi, ton impression, on est assez unanime. Est-ce que toi, tu vas nous contredire ?
Non, je pense que c'était très habile de sa part d'arriver comme ça sur scène, sans compte à rebours. Genre, voilà, il a vraiment débarqué pour donner son message. Il avait l'air assez sincère. Je pense qu'il était sincère parce que bah, c'est pas un PR, c'est pas un acteur. Et je pense qu'il faut quand même beaucoup de média training pour jouer ce genre de sincérité. Donc, à mon avis, il l'était vraiment. Plusieurs fois, d'ailleurs, pendant la BlizzCon, il a fait preuve de cette sincérité. Donc, je pense que c'était tout à fait normal de sa part. Je pense qu'il a vraiment été touché par l'affaire, peut-être à titre personnel même. Et puis, oui, voilà, il y a eu les petits incidents pendant le Q&A World of Warcraft, mais ça n'a en rien entaché la BlizzCon. Je trouvais que c'était très bien pensé parce que, comme l'a dit Emmanuel, on passe de... bon, on sait qu'on a merdé. Genre, il a dit, voilà, on veut rassembler le monde avec les jeux vidéo. We failed. Et après, on parle d'autre chose. Et maintenant, on va essayer de se rattraper. Donc, je pense que c'était très, très, très habile. C'était bien joué, tout en étant sincère. Donc, que du positif de ce côté-là. Et ils étaient extrêmement attendus au tournant à ce niveau-là. Donc, ils n'avaient pas vraiment le choix. Et je trouve qu'ils ont eu une très, très bonne réaction face à ça.
Ouais, je crois aussi que, pour conclure sur le sujet, il y avait effectivement... Il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais ces gens-là, je crois que... Je ne suis pas sûr de savoir ce qu'ils auraient voulu. À moins que, j'ai dit en plaisantant, ils brûlent un drapeau chinois sur scène, évidemment c'est pas ça, mais qu'ils annulent le ban, ça ils allaient pas le faire, ou qu'ils partent de Chine, bah ils allaient pas le faire, donc voilà, et c'est compréhensible je crois pour une société qui part pas de Chine, même si avec ce sujet c'est venu sur le devant de la scène et les gens disent ah le... c'est pas faux hein, les problèmes qu'il y a avec la Chine, et on en a déjà assez parlé, mais voilà, donc bon, et ouais Julien ?
Je dis, en fait, d'un côté, toute cette histoire, finalement, on peut en tirer du positif en se disant que s'il n'y avait pas eu cette affaire avec Blitzchung, on va dire que la communauté gaming, elle serait un petit peu restée silencieuse vis-à-vis de Hong Kong et ce genre de choses. Ça a mis un petit peu ce sujet qui reste un sujet politique majeur aujourd'hui, d'autant plus dans le gaming, parce qu'avec les grosses sociétés type Riot qui sont possédées par des groupes chinois, ça reste un sujet intéressant, mine de rien, parce que ça en dit long sur la direction que peuvent prendre les jeux vidéo à terme. Donc, finalement... Si tout le monde, enfin, Blitzchung a eu sa sanction allégée, je pense qu'effectivement il pouvait pas l'enlever parce que ça aurait créé un précédent, parce que du coup après, si on laisse lui s'exprimer, on peut laisser d'autres messages politiques qui peuvent éventuellement être beaucoup plus délétères que ce que lui a dit s'exprimer, et ça c'est pas possible. Et donc je pense qu'au final c'est du positif parce que ça a permis à ces gens, ces manifestants devant, de venir distribuer les t-shirts, de parler de ses soucis, de parler de ses enjeux, et puis à Blizzard de se rattraper. Et finalement, tout le monde en sort un petit peu grandi de cette histoire. Donc, je pense que c'est assez positif dans l'ensemble.
Ouais, moi, je n'irai pas jusqu'à dire que tout le monde en sort grandi quand même. Mais c'est vrai que l'opportunité que ça donne, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont furieux contre Blizzard, qui n'ont pas ensuite fait la démarche d'aller s'informer sur ce qui se passe à Hong Kong vraiment. Et c'est ça que je trouve un petit peu frustrant, moi qui sais toujours un petit peu mesurer, un petit peu je mesure tous les côtés des choses, et je me dis l'opportunité c'est celle-là, c'est d'aller s'informer effectivement, c'est pas d'aller gueuler sur Twitter. Et donc on peut espérer que les gens le feront s'ils sont sincères dans leur frustration de cette situation. J'ajouterais, avant de passer au jeu, que cet aspect de Jalen Brack qui est passé de mécanique robotique à humain, à mon avis, c'est hyper important parce que il est maintenant dans le rôle de personnifier la société auprès des joueurs. Et on a tendance à oublier, moi-même je l'avais oublié, c'est pas facile pour tout le monde de s'exprimer de manière sincère et de on a tous le souvenir de Mike Morhaime qui était hyper attachant et qui avait tout de suite qui a gagné le cœur des joueurs, mais il avait 20 ans d'expérience et c'est allé progressivement cette relation avec la communauté. Donc j'espère que Brack, qui de mon expérience était quand même assez froid, assez distant, là commence à habiter un petit peu plus le rôle. Donc bon, on verra. Mais pour moi, cet aspect, c'est vraiment autant que les histoires de Hong Kong, les nouveaux jeux, l'évolution de Brack, c'est, je sais pas, 20-30% de ce qui rend possible la reconnexion entre la communauté et Blizzard. Pour moi, c'est vraiment très très important. Donc bon, parlons un petit peu des jeux. Ils ont été nombreux. Les annonces ont été fortes. On va laisser le plus gros pour la fin, Diablo 4. On va commencer avec peut-être Hearthstone, qui a eu des jolies petites nouveautés. Manu s'endort. mais je vais me retourner du coup vers Zekaria. Il y a eu une nouvelle extension qui était quand même attendue. C'est ce qu'il y a à toutes les BlizzCon et tous les quelques mois. Et surtout, il y a eu un nouveau mode qui est un mode qui est vraiment différent pour le coup, inspiré des auto-battlers, donc Dota Underlords, TFT. C'est-à-dire que c'est un mode, pour ceux qui ne connaissent pas, où on joue à 8, on choisit nos créatures qu'on va placer sur le board. Et après, les combats vont se passer de manière automatique contre l'un des 8 participants. Et puis on continue, on tourne, jusqu'à ce que tous soient morts. Et on a des mécaniques pour acheter des cartes, les placer, les améliorer, etc. C'est moi qui joue plus à Hearthstone depuis un moment, je l'ai testé. J'ai trouvé ça, alors j'ai rien compris, mais j'ai trouvé que c'était intéressant quand même. Donc entre ça et puis le Flight of Dragons, Descent of Dragons, entre les deux, qu'est-ce que tu as pensé des annonces et de ce que tu as testé ?
Alors Hearthstone, depuis maintenant on va dire quelques années, c'est un jeu qui ronronne un peu. Il a innové au début et c'est vrai que depuis quelques années ça innove plus tellement. On a nos extensions, on a nos mécaniques, on a le random qui est décrié par une partie de la communauté et apprécié par une autre. Mais il n'y avait pas grand chose de nouveau et là effectivement ils ont réussi à créer la surprise parce que je pense que peu de personnes s'attendaient à un jeu de ce genre. En vrai, pas mal de gens s'attendait à un jeu de ce genre, mais pas forcément sur Hearthstone, plutôt sur Heroes of the Storm et tout, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de le voir avec des cartes. J'ai trouvé que c'était super ingénieux, j'y ai joué, et je pense que le jeu est super bien conçu. Et ça peut aussi renouer un petit peu avec ce que peut faire Blizzard en termes d'innovation. En gros, ce que j'ai eu en interview, c'est qu'ils ont expliqué que ce jeu-là, ils l'ont commencé à le dev il y a 6 mois. Ils l'ont imaginé il y a 6 mois, donc c'est un truc qui allait super vite. Contrairement à d'autres jeux où ça met un temps pas possible et on pense par exemple à Heroes of the Storm où ils ont complètement loupé le train du MOBA. Peut-être que justement là ils dansent sur un autre pied, ils se disent on va le sortir vite parce qu'il sort la semaine prochaine. La semaine prochaine il est en bêta fermée, dans 2 semaines bêta ouverte et après c'est réglé, bêta ouverte, tout le monde joue et comme s'il était sorti finalement. Et donc j'ai trouvé ça super ingénieux, le jeu est super fun, donc comme tu l'as dit, hein, en gros on sélectionne des cartes, donc au lieu d'avoir un deck au début, on crée un petit peu son champ de bataille avec ses cartes, il y a des synergies entre les mecs, entre les murlocs, on est dans l'univers de Warcraft, et puis après voilà, ça se bat tout seul, c'est fun, il y a plein de héros, des petits graphismes sympas, c'est jouable sur mobile, et je pense que ça c'est super important. Et donc pour moi c'est une bonne chose, c'est une très très bonne chose, ça va peut-être réveiller un petit peu Hearthstone, et puis peut-être que des gens qui viendront jouer au Battlegrounds, donc c'est le nom de l'auto-chess, peut-être les gens qui viendront jouer à Battlegrounds se diront tiens, je vais refaire quelques parties sur le ladder. Ça permettra de redonner un petit souffle de fraîcheur à Hearthstone qui, je pense, en a un peu besoin ces derniers temps.
Et c'est vrai qu'ils ont un nouveau bouton mode où il y a l'arène et maintenant le Battleground. Et ils pourront en ajouter. Ils ont été un petit peu pas très clairs sur le sujet, évidemment. Mais ils peuvent en ajouter assez facilement maintenant s'ils le souhaitent. Ouais, Manu ?
Excusez-moi, j'ai entendu Hearthstone, je me suis réveillé. t'as dit le mot auto-chess, mais je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse, peut-être pas. Mais c'est vrai que le format Dota auto-chess hein, qui est apparu là-bas, qui est un peu le même principe. Hein. Il y a 8 joueurs qui jouent l'un contre les autres, mais c'est aléatoire à chaque fois. Il y a des rounds et à chaque round, il y a des joueurs qui peuvent simplement perdre et du coup...
C'est des parties assez longues, hein. C'est je crois 20-25 minutes, même sur Hearthstone. C'est beaucoup plus long qu'une partie classique. Quoi.
Ouais, tout à fait, mais c'est hyper populaire Dota Auto Chess. Et du coup, je pense qu'ils vont complètement profiter d'une communauté déjà qui connaît le principe. Parce que l'Auto Chess, quand on commence un peu, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Et là, ça va être... je pense qu'il peut y avoir une réponse formidable de la communauté parce que ça existe déjà dans un autre jeu. Donc du coup, il va y avoir des gens qui vont graviter autour relativement rapidement. Je pense.
Et d'ailleurs, pour info, issu d'une interview que je viens d'avoir, là, il y a un tutoriel qui est prévu. Parce que là, quand on joue aux démos, il n'y a pas de tutoriel. Donc on arrive... On est en mode, qu'est-ce que je fais là ? Et en fait, il y a un tutoriel. Donc la première fois que vous lancez le mode, il y a Bob le barman qui vous explique comment jouer, justement pour pas que vous vous retrouviez paumé, que vous fassiez un tour et que vous soyez en mode, ouais, mais c'est naze, allez, salut, et que vous reveniez jamais.
Un petit mot sur le business model. Ils ont donc expliqué que c'est évidemment accès gratuit, et si jamais on a un certain nombre de packs de la dernière extension en cours, du mode normal, on va avoir des avantages, mais des avantages assez minimes, c'est-à-dire plus de statistiques sur les parties qu'on a fait, le choix entre plus de héros, parce que c'est des héros complètement originaux, donc le choix au départ entre 3 héros au lieu de 2, si on n'a pas un certain nombre de packs qu'on a acheté. Donc en gros, ça encourage à acheter des paquets de cartes de la dernière extension. Et il faudra, pour avoir ces avantages-là, qui ne sont pas indispensables pour jouer du tout, mais pour avoir ces avantages-là, acheter des packs de la dernière extension en cours. Donc ça quand même encourage à continuer à dépenser de l'argent, bon, évidemment. Mais c'est un moyen intéressant de le faire, parce que ça veut dire que même si on n'achète jamais de packs, eh ben on peut quand même jouer au même niveau. Du coup, il n'y a pas du tout de entre guillemets pay to win, parce que c'est complètement aléatoire et donc on est tous au même niveau. La seule différence, c'est qu'on a le choix qu'entre 2 persos au lieu de 3, mais c'est quand même aléatoire. Donc c'est pas un énorme avantage non plus. Et puis ces histoires de statistiques et puis des petites choses comme ça. Est-ce qu'on dit un mot sur Descent of Dragons ou c'est juste une extension classique de Hearthstone et puis voilà?
Globalement, en termes de mécanique, pour l'instant, ce qui a été révélé, c'est une extension assez classique. Tout simplement, ça tourne autour des dragons. Donc, on a déjà eu quelques mécaniques dans ce genre-là. Après, on a quelques grosses créatures donc, qui vont faire plaisir à tout le monde. Je pense qu'il y a aussi un truc dont on doit parler, c'est que récemment, Blizzard a fait un truc cool. Ils ont remis des cartes qui étaient plus jouables dans le set classique. C'est-à-dire qu'ils ont repris d'anciennes cartes ne pouvaient plus jouer, qui était en mode libre, et ils ont dit bah maintenant vous pouvez jouer en mode standard, et ça a pas mal changé la méta, et ça je pense qu'ils devraient le faire plus régulièrement, c'est-à-dire entre deux extensions, à pas se mentir, on se fait chier quand ça fait quand ça fait un mois et demi que les decks sont les mêmes et que ça devient un peu figé. Bon bah au bout d'un moment, soit on a les légendaires, on a fait le bon deck et on fait le même tous les jours pour faire les quêtes et c'est cool, soit on en a marre et du coup la population descend. Pardon.
Allô maman.
Je sais plus ce que j'ai à 17h. Je crois que j'avais un truc, bref, c'est pas grave. Du coup, la population descend, alors que là, au contraire, on se retrouve sur, ils mettent des nouvelles cartes, des cartes qui sont des cartes du passé, donc on peut se dire, ah tiens, Ragnaros, j'aimais bien le jouer à l'époque, ouais, c'est marrant, je vais me refaire un deck et tout, et ça rend un petit peu plus de fraîcheur au jeu. Et j'ai l'impression qu'ils sont aussi en train un peu de se débloquer à ce niveau-là, donc sur les équilibrages, ce genre de choses. Hearthstone, ils ont toujours été très conservateurs dans les changements sur les cartes. Parce que pour eux, c'est une carte, elle est imprimée, elle ne devrait pas être modifiée toutes les semaines. Et je pense qu'ils commencent un peu à prendre exemple sur d'autres jeux qui sont un petit peu plus, pas laxistes, mais qui vont y aller, quoi. Qui vont dire, bon, on va essayer, on va nerfer cette carte, c'est vrai qu'elle fait, voilà, elle déséquilibre complètement le jeu. On va la nerfer, on va voir ce que ça donne, et ils changent une semaine après, deux semaines après. Là, on a vu plus d'activité de ce côté-là ces derniers mois, et je pense que c'est une bonne décision à prendre, c'est un bon chemin. On va voir si ça permet aussi de redonner un vent de fraîcheur au jeu, parce que voilà, c'est vrai qu'Hearthstone, ça tourne, il y a les extensions qui sortent, il y a les gens qui achètent, donc je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais en termes de gameplay, d'innovation, je pense que le jour où il y a un concurrent qui arrive, il risque de se le prendre dans la tête, et il faut qu'il anticipe ça.
Du coup, c'est vrai que là, entre le Battleground et cette nouvelle philosophie, c'est pas non plus que Hearthstone est complètement différent, mais c'est un petit coup de fouet, on va dire, sur le jeu. Surtout qu'effectivement, comme je le disais, le Battleground, c'est entièrement gratuit, quoi. Et même sans les avantages qu'on a en prenant des cartes, c'est complètement jouable. Donc c'est sans doute la version de Hearthstone la plus accessible, j'ai l'impression, du coup, si c'est confirmé que c'est comme ça que ça marche, quoi. Donc voilà sur Hearthstone. On peut parler un petit peu de World of Warcraft. World of Warcraft Shadowlands qui a été confirmé après les rumeurs. Alors une cinématique hyper fanservice avec Sylvanas qui arrive à Icecrown et qui combat le Lich King Bolvar. Les gens qui ne suivent pas Warcraft ont déjà décroché. Mais c'était marrant parce qu'il y avait la rumeur que Sylvanas allait devenir la Lich Queen et elle prend le casque du Lich King et elle le regarde et elle dit « Tu n'es pas digne de porter ce casque » et elle le prend devant son torse et tu dis « Mais elle va le mettre !» Et puis en fait non, elle le brise. Et donc c'était vraiment un petit on vous a bien eu. C'était assez marrant. Et d'ailleurs, cette ambiance ils ont beaucoup fait de références aux leaks, à leur genre « Ah ouais, il y a des leaks, donc je savais plus ce que je voulais dire, mais je vais aller regarder sur Internet pour pouvoir faire la présentation. » Il y avait J. Allen Brack, ça joue dans ce qu'on disait. Il a fait une référence à ce même qu'il est devenu en disant, en parlant de World of Warcraft classique, vous pensez que vous le voulez, mais en fait vous le voulez pas. Et il a fait une référence genre vous pensez que vous le voulez et ouais bon je crois que vous avez raison en fait vous le voulez. Ça, c'est les trucs qui détendent la situation tout de suite et qui mettent à l'aise et qui bon bref ça c'était autre chose. Mais sur World of Warcraft donc après cette cinématique très sympa, annonce de Shadowlands avec une nouvelle zone comme d'habitude, des nouvelles fonctionnalités. Le truc, c'est qu'au départ, pendant la conférence d'ouverture, moi, je n'ai pas été hyper convaincu par Shadowlands. Je le dis sans détour, ça fait un moment que je ne joue plus à Battle for Azeroth, l'extension du moment. J'étais assez déçu par l'extension, sans être un enragé, mais voilà. Et puis, il y a d'autres choses qui ont attiré mon attention. Donc, je me disais, bon, OK, une nouvelle extension, wow, on verra. Et puis, en voyant les panels après qui détaillent les fonctionnalités, j'ai commencé à me dire qu'ils se concentrent sur quelques fonctionnalités, beaucoup moins que dans Battle for Azeroth, et elles ont l'air beaucoup plus abouties. Et il y a presque un retour à ce que les joueurs, d'une certaine manière, attendent de classique, mais d'une manière adaptée et modernisée, c'est-à-dire un petit peu plus de difficultés, un petit peu moins d'aléatoire, un petit peu plus de choix au niveau des personnages. Et ça, pour résumer, c'est un petit peu plus un RPG. On revient, pas complètement, mais un petit peu plus du côté RPG que du côté arcade, j'ai l'impression. Est-ce que c'est ton impression aussi, Julien ?
Oui, tout à fait. J'ai eu la même impression que toi avec la cérémonie d'ouverture. J'étais un peu déçu Shadowlands, prime abord. Pour après, effectivement, changer d'avis en voyant les conférences. On sent qu'ils ont envie de se rapprocher, comme tu l'as dit, un petit peu de classique, notamment en ce qui concerne les classes, avec une volonté à ce que, quand tu joues paladin, eh bien, t'es fier de jouer paladin. Tu n'irais pas jouer autre chose.
Ouais, c'est-à-dire les classes plutôt que les specs. T'es paladin. T'es pas paladin rétribution ou paladin... Holy, c'est quoi Holy en français ? Sacré, voilà. Ou machin, ouais. Donc c'est la classe avec des capacités qui reviennent dans le kit de toutes les specs qui sont iconiques, les auras, les totems, les poisons, les trucs qui parleront aux fans de la première heure et qui donnent une force identité de la classe, effectivement. Mais c'est l'un des trucs, et il y en a beaucoup dans cette veine.
Oui, absolument. Des vieux sorts qui avaient été oubliés à Warlords of Draenor vont revenir, rituel de malédiction pour le démoniste et ce genre de choses. Donc on sent quand même une volonté, et un petit peu comme Alan Brack avait fait la référence à Hong Kong en s'excusant, bien, sur Ion Azikostas, le game director de WoW, a fait la même chose en disant voilà, on s'est un petit peu perdu au fil des extensions au niveau des classes, on s'en est rendu compte, et pourtant on y croyait, vraiment, on pensait qu'on allait dans la bonne direction. Et ben voilà, là effectivement, on a bien compris que ça ne vous plaisait pas trop, et finalement à nous non plus. Donc on essaye des choses, des fois ça passe, des fois ça passe pas. Et donc ici, hop, on reprend une autre direction, ce qui est plutôt bien. Et bon, on parlait des classes, mais le leveling va énormément évoluer aussi. Et ouais, il y a plein de bonnes choses.
Le leveling, effectivement, ils vont écraser les niveaux sur 60 niveaux au lieu de 120 ou 130 si on comptait Shadowlands. Et donc, l'extension sera à partir du niveau 50. Donc, le leveling jusqu'à l'extension, ça sera 50 niveaux, ce qui veut dire qu'à chaque niveau, on aura des trucs intéressants, des talents, des nouveaux sorts. Chaque niveau donnera l'impression qu'on a accompli quelque chose. Et ils réduisent aussi énormément la quantité d'XP nécessaire pour passer de 1 à 50. Ils parlaient de 60 à 70% de moins. Donc, ça sera beaucoup plus rapide. Et en plus de ça, les joueurs qui jouent pour la première fois vont avoir une nouvelle expérience par laquelle ils doivent passer. Et ils vont ensuite aller, donc pour les 10 premiers niveaux, et puis ils vont ensuite aller à Battle for Azeroth et jouer le leveling de cette extension, qui est bon, le leveling de Battle for Azeroth. Et donc, tout le monde aura la même expérience pour, en commun. Et après, si tu veux jouer des alts, si tu veux faire d'autres persos, et ben là, tu peux carrément choisir bon, de faire les anciennes zones de départ. Et ensuite, tu peux choisir l'extension dans laquelle tu vas faire tout ton leveling de 40 niveaux, donc de 10 à 50. Si tu veux, tu peux te balader de l'une à l'autre, mais ça fera une expérience cohérente. Ce qui est intéressant aussi comme, comme approche. Bon, là, c'est les questions de leveling, mais sur Shadowlands aussi, il y avait aussi ce focus, j'ai l'impression.
Oui, 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 tout à fait. Et puis, ce qui était amusant à voir, c'est que sur les différentes conférences, c'était pas, enfin, ça parlait de Shadowlands, parce que Shadowlands apporte toutes ces modifications, mais on parlait du contenu de Shadowlands avec les nouvelles zones, etc. Somme toute, pas tellement de temps à côté de tout ce que ça va changer dans World of Warcraft. Donc, certains moments, ça fait presque penser un peu à Cataclysm, où il y avait du contenu inédit, mais il y avait aussi beaucoup de modifications dans les mécaniques de jeu et pour le leveling et pour tout ce qui touche à World of Warcraft dans son ensemble. Donc,
C'est pas un bon augure, Cataclysm.
C'est ce que j'allais dire. C'est que je parle de Cataclysm avec, et c'est vrai qu'on s'en rappelle comme une extension juste moyenne. Il fallait y passer. Bon, ici, ça a l'air quand même d'être autre chose. Hein. Il y a quand même toutes ces zones, avec toute une histoire, et avec Sylvanas, et avec la vie et la mort. Voilà.
Bah ça, le truc, c'est qu'on ne sait jamais vraiment... parce que là, on a un tout petit morceau de ce que va être l'extension. Ils en parlent beaucoup et ils y croient toujours. Ils ne font jamais un changement en se disant « Ah ouais, ça va être nul, on le rechangera dans 2 ans. » C'est toujours un truc réfléchi, développé. Et quand ça ne marche pas, ils reviennent en arrière. Mais oui, donc là, ils y croient, ils nous en parlent. Et c'est vrai que c'est convaincant. On verra une fois qu'on ira un petit peu plus accès. Mais même sur Shadowlands, il y a la zone, donc il y aura 4 zones avec les Covenants, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais les congrégations, merci l'autre Julien. Et donc on pourra s'aligner avec elles, ça nous donnera des capacités spéciales, etc. Et en leveling, on va la première fois les faire dans un ordre précis, et puis après on choisira de s'aligner une fois qu'on aura joué avec les 4 pour savoir ce que ça amène. Et après on aura la zone de endgame, Olibrius. qui est, dont il disait, elle est plus difficile que l'expérience endgame habituelle. On a vraiment des chances de mourir. Donc là encore, ça, c'est une petite inflexion de la philosophie. Et puis il y a la fonctionnalité de Torghast, la tour des damnés, qui est une sorte, alors j'étais surpris, mais ça a l'air intéressant, une sorte de roguelike dans World of Warcraft. Julien, tu hoches la tête, t'es intéressé par cette fonctionnalité ?
Ouais, je pense que c'est des trucs qui sont en train de développer depuis plusieurs années, depuis notamment Légion avec les Donjons Mythiques Plus, qui sont un excellent moyen de créer du contenu à durée de vie potentiellement illimitée. Pour les gens qui n'ont pas joué depuis longtemps, un Donjon Mythique Plus dans World of Warcraft, c'est un donjon mythique, donc c'est la difficulté maximale, qu'on peut activer via une clé et qui possède un niveau, genre donjon de clé 4, 6, 8, 10... Hein. Et plus la clé monte, plus les monstres sont puissants, plus les récompenses sont bonnes et les monstres disposent de petits affixes supplémentaires. Genre là, ils mettent de la lave sous tes pieds, ce genre de choses. Et en fait, ça a permis de dynamiser les donjons. C'est-à-dire qu'avant, dans les extensions, on faisait le donjon pendant le premier patch. Le patch sortait, les donjons servaient littéralement plus à rien. Et aujourd'hui, jusqu'au dernier jour de l'extension, il y a des gens qui vont aller faire des donjons mythiques plus. Je pense que c'est un peu la même chose ici. C'est-à-dire que c'est un système qui crée, qui est potentiellement infini parce que d'après ce qu'ils ont dit dans les panels, on ne peut pas monter tout en haut de la tour de Torghast. Genre, on sait, au bout d'un moment, il y aura toujours une difficulté plus 1 pour nous arrêter. Et donc, ça peut créer des situations super intéressantes. Et ça, surtout pour les joueurs, ça peut créer un vrai défi. Ils avaient réussi à Légion à faire des défis de classe qui étaient super intéressants pour avoir des armes, des skins sur les armes prodigieuses. Donc, c'était des défis qui étaient vraiment très durs. Les gens avaient adoré, ça avait super bien marché. Ils n'en ont pas refait à BFA. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont envie de refaire ça. C'est-à-dire un défi qu'on peut faire soit tout seul, soit avec des amis. Là, en l'occurrence, voilà, on peut jouer entre 1 et 5 et qui finalement, dont la difficulté augmente petit à petit et se dire ah ben, cette semaine, ouais, c'est cool, j'ai réussi à monter au 15e étage de la tour. Vas-y, la semaine prochaine, je m'optimise, je me chauffe et j'essaye de monter au 20e, par exemple. Et ça, c'est une autre façon aussi d'inciter les gens à jouer. Ce n'est pas simplement en leur mettant des quêtes, en leur disant « Oui, voilà, il faut que tu fasses ça 15 fois par jour parce que sinon, tu n'auras pas tes 55 points d'énergie random, trouver un nom d'énergie qui fait roleplay. » Là, c'est genre, c'est t'as envie d'essayer, tu peux essayer. Dans tous les cas, comme ils utilisent des technologies de scaling dans tout maintenant, avec le leveling, t'en as parlé tout à l'heure, pourquoi pas. Et je pense que ça peut être super intéressant pour... alors, on n'est plus du tout dans le RPG, là. On est complètement dans un autre genre de jeu. C'est du hack and slash roguelike. Mais voilà, c'est pas une expérience qui est timée, on peut y aller avec des potes et donc on peut créer des synergies de groupe. Et je pense qu'il y a vraiment une volonté de développer cette durée de vie artificielle. C'est pas une mauvaise chose, hein. Pour moi au contraire c'est très intéressant. Et je pense que ça va dans la bonne direction par exemple.
Il y a effectivement, à chaque fois qu'on avance un petit peu dans le, ce qui n'est pas un donjon, mais enfin dans la tour, on va choisir des bonus et puis ça peut, on a le choix entre différents bonus et ils peuvent faire des combos entre eux et ça, les exemples qu'ils donnaient étaient effectivement assez intéressants. Et juste rapidement pour mentionner ça, tu disais on n'a pas d'énergie à grinder. Et il disait oui, on va pas avoir de artifact power ou de machin. Donc ça aussi, c'est un truc que les gens au final n'adoraient pas et qu'ils ont entendu.
Alors, ce que tu as mentionné, les capacités ou les effets qui se cumulent, qui peuvent, hein, ça s'appelle des anima effectivement. J'ai eu cette info cet après-midi dans une interview World of Warcraft. C'est vachement intéressant. En fait, le monde. Alors, déjà, le lore de l'extension est super intéressant pour moi. J'ai adoré. Ça se passe dans le monde des morts, en fait. Hein. On va dans le monde des morts et on est évidemment exceptionnel comme d'hab. C'est qu'on a la capacité de rentrer et de sortir du monde des morts à volonté. Mais la tour des damnés, c'est la tour du jailer. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais du
geôlier.
Si, oui, du joaillier, c'est le même mot en fait. Ouais, bah, bravo. Du joaillier.
Non, geôlier. Parce que joaillier, c'est...
Je suis pas d'accord, je suis sûr que tu auras plein de loot. Hein. Mais bon. du geôlier qui s'occupe de toutes les âmes qui, a priori, c'est censé être les gens qui n'ont pas fait des trucs super bien.
C'est ceux qui sont irrattrapables. C'est-à-dire que dans chaque zone, ils ont l'une des congrégations. C'est ça, a un rôle. Il y en a qui reçoivent ceux qui sont cool, les morts qui ont bien vécu, ceux qui sont un peu rattrapables, donc ils ne sont pas trop cool, mais on peut les retaper et puis on les renvoie, etc. Dans le maw, donc la mâchoire, c'est ceux qu'on ne peut pas rattraper, c'est fini, ils doivent rester là à jamais. D'ailleurs, peut-être des gens qu'on a déjà rencontrés. Mais...
D'ailleurs, il y a une des congrégations, la partie de la campagne de la congrégation, ça permettra de retrouver Uther Lightbringer. J'ai entendu, alors je sais pas, le porteur de lumière. Ça, c'est vachement bien les noms en français, j'adore. Et sinon, pour une autre congrégation où ils acceptent pas les gens super bien, ça sera Keltas, j'ai entendu.
Ah oui. C'est les vampires. C'est effectivement, il sera bien à l'aise là-bas.
Bref, pour en revenir à l'anéma, en fait, l'anéma, on pourra le cumuler de plein de façons différentes, notamment la tour des damnés, mais on pourra aussi faire du PVP, on pourra aussi faire la campagne, c'est ce qu'il disait, et l'anéma sera utilisé pour plein de choses. À l'origine, le monde des morts était plein d'anima, mais je crois que c'est à cause de Sylvanas, vous devez connaître qui est Sylvanas normalement, a priori, à cause de ce qu'elle a fait, tout l'anima a quasiment disparu du monde des morts, et donc du coup, maintenant, c'est une ressource très précieuse qui est demandée par les congrégations. Donc, on pourra leur donner. Et justement, les effets de la tour des damnés, c'est ce qu'ils appellent des anima cells. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionnera. Ils n'ont pas vraiment donné de détails. Mais grosso modo, ça sera relié à l'anima et ça permettra d'activer ces capacités, ces effets dans les donjons qui permettront, a priori, si j'ai bien compris, il sera impossible de monter dans la tour des damnés à haut niveau sans les effets parce que les monstres seront beaucoup trop forts.
Et effectivement, c'est... Merde, j'ai oublié ce que j'allais dire. Mais ouais, donc il y a plein de fonctionnalités intéressantes. Enfin, plein. Justement, il y a quelques fonctionnalités intéressantes. Et c'est plus focalisé que ce qu'on avait sur Battle for Azeroth. Donc à voir ensuite quand on aura un petit peu plus d'informations. Mais jusqu'ici, on est plutôt positif sur l'extension. Oui, c'était que Sylvanas, en fait, elle... bon, c'est de l'histoire, tout le monde s'en fout. Mais non, c'est intéressant. C'est que Sylvanas, elle essaye de provoquer autant de morts que possible parce que les morts ne vont plus dans les zones de Shadowlands, mais directement dans le Maw. Et donc, c'est pas comme ça que la, entre guillemets, machine du cycle de la vie du monde d'Azeroth devrait fonctionner, donc elle est cassée. Et elle retire de la puissance de l'ajout de morts qui vont directement dans le mot, comme le geôlier.
D'ailleurs, les gens qui s'occupent de Shadowlands, ça leur donne des mots de tête. Voilà.
Julien, un truc, une conclusion sur Shadowlands ?
Mais plutôt, moi je trouve que l'extension s'annonce plutôt bien. Alors à la fois pour tout ce que celle va apporter en tant que nouvelle mécanique de jeu sur WoW et une modification, et sur ce nouveau monde qu'on va visiter. Donc il y a encore beaucoup de questions en suspens. Ils ont dit que la Tour des Damnés serait une activité parmi d'autres. Donc voilà, ils en ont d'autres à dévoiler. Ils disent on a d'autres choses à dire sur Shadowlands. Voilà, le Biscone a été l'occasion d'en dévoiler, mais il y a encore d'autres choses en réserve de leur côté.
Ouais, ils n'ont pas tout dit. Écoutez, on va avancer un petit peu sur Overwatch et Overwatch 2, qui a effectivement été révélé, qui est une bestiole un petit peu bizarre quand même. J'ai jamais vraiment vu un nouvel épisode d'un jeu ou d'une série qui fonctionne comme ça, parce que Overwatch 2 existe ou existera complètement en conjonction avec Overwatch 1, qui bénéficiera de tous les ajouts d'Overwatch 2 du côté PVP et vice-versa, mais Overwatch 2 aura en plus un mode PVE très poussé, selon eux, hautement rejouable, qui sera exclusif du coup à Overwatch 2. Donc, c'était compliqué à expliquer, mais de fait, ça veut dire que les gens qui auront déjà Overwatch 1 auront tout ce qui fera le PVP de Overwatch 2. Les nouveaux personnages, les nouvelles cartes, les nouveaux modes, absolument tout. Et en fait, le fait d'acheter Overwatch 2 amènera, si on a déjà Overwatch 1, uniquement le contenu PVE. Donc, il y a des...
Et les graphismes.
Oui, alors effectivement, ils ont amélioré le moteur, mais même ça, je ne suis même pas sûr que ça ne sera pas inclus dans Overwatch 1, parce que...
Non, les textures ne seront pas... C'est-à-dire que mais ça sera principalement les textures, hein, la forme des personnages sera la même, je veux dire, la zone de dégâts, entre guillemets, sera exactement identique entre les deux. Par contre, il y aura des meilleures textures sur Overwatch 2, mais le gameplay sera identique.
Et alors effectivement, le jeu aura un moteur... Un petit peu, enfin à vrai dire, c'est ce que disait Jeff Kaplan, c'est le même moteur, mais plus poussé, amélioré. Donc c'est vrai que quand on a vu les images, on se disait « ouais, bah, c'est un petit peu plus beau, mais c'est pas non plus incroyable » et c'est confirmé, c'est effectivement le même moteur. Avant d'en parler un petit peu plus, je veux quand même dire un mot sur les cinématiques qui étaient assez sympathiques, pas aussi bonnes que celles de l'annonce d'Overwatch, j'ai trouvé, mais quand même cool parce qu'on arrive maintenant dans le présent de cet univers et on a l'équipe d'Overwatch qui se reforme et c'est vrai que quand on voit les héros qui arrivent à Paris pour se débarrasser des Omniacs qui attaquent la ville et qu'ils sont un petit peu dans une situation désespérée, le truc très classique, et qu'il y a les autres héros qu'ils ont appelés qui arrivent enfin... On a un peu l'impression de voir les Avengers se réunir et il y a Genji qui débarque de nulle part et qui fait son renvoi de projectiles. Et tu dis, waouh, c'est Genji, c'est merci, c'est machin. C'était un peu, je sais pas, ça vous a donné cette impression un petit peu aussi?
Ouais, il y a un côté très très Avengers à la nouvelle cinématique d'Overwatch, mais pour le plus grand bien, parce qu'elle est vraiment super, je trouve qu'elle était très réussie. Il y a eu beaucoup d'émotions dans le public, les gens réagissaient. Quand Genji est arrivé, effectivement, c'est très drôle parce qu'on s'y attend pas et du coup ça marche vraiment très très bien. Donc la cinématique est très réussie et c'est super parce que ça inaugure un présent pour Overwatch où c'est pas que des événements PVE de temps en temps, on retourne dans le passé découvrir des trucs, là on avance vraiment dans une histoire et donc on a plus envie de découvrir ce qui s'y passe et puis on est plus, peut-être plus impliqué avec le personnage, genre on peut un petit peu jouer Tracer, pas simplement parce que c'est super fort et que c'est cool et que je vise bien, mais parce qu'on aime bien l'histoire et peut-être ça un petit peu plus des personnages. Parce que je pense que le lore de ce jeu a tout à gagner à être exploité, parce qu'il existe. Les développeurs avaient écrit tout plein d'histoires, mais malheureusement, il n'est pas forcément exploité. Et j'espère qu'Overwatch 2 va faire ça, de par son mode PVE, nous donner envie de nous attacher à ces personnages d'Overwatch, à les comprendre un peu mieux et à comprendre qui est gentil, qui est méchant, pourquoi, comment, et donner une dimension supplémentaire à ces personnages qui, au-delà de ça, sont charismatiques, mais qui le seraient encore plus si on les connaissait un peu plus en détail.
Il y a effectivement un petit peu de dramaturgie qui peut se développer dans l'histoire, ça aiderait beaucoup. Alors justement, bon, le mode, les ajouts du PVP, ils sont quand même présents. On va les évoquer très rapidement. Il y a un nouveau mode de jeu qui est le mode push, où il y a un gros robot qui doit pousser un bloc et on doit être à côté pour qu'il avance. C'est un truc classique, mais voilà, ça va être ajouté avec Overwatch 2. Des nouveaux personnages, un pack de personnages en fait qui arrivera avec Overwatch 2. Et mais ce qui est intéressant, c'est qu'il disait qu'il serait disponible aussi dans Overwatch 1. Donc c'est en mode PVP. Donc bon, on aura tout ça si on a déjà Overwatch 1. Et oui, il précisait également qu'il y aura au moins un personnage qui sortira sur Overwatch 1 avant la sortie d'Overwatch 2. Parce que comme tout va arriver sur Overwatch 2, on se disait, mais du coup, qu'est-ce qui se passe sur Overwatch 1 jusqu'à ce que le 2 sorte ? Parce que comme pour Diablo, ils n'ont pas donné de date, ils n'ont même pas donné de date de bêta. Contrairement à ce qui s'était passé avec Overwatch au moment de l'annonce, il y a déjà 5 ans, mon Dieu, ils avaient dit l'année prochaine, il y a la bêta. Alors, c'est sorti à la fin de l'année, mais là, ils n'ont même pas dit il y a la bêta l'année prochaine. Donc, s'il ne se passe rien sur Overwatch 1 jusqu'à ce que Overwatch 2 arrive, ça va faire long. Mais bon, bref, donc ça, c'est l'aspect PVP sur lequel on peut passer, je pense. L'aspect PVE, comment ça va se passer ? Il va y avoir une série de missions d'histoires qu'on va pouvoir jouer avec un lot de 4 personnages déjà prédéfinis, donc en groupe. Et en groupe, on aura du matchmaking en ligne, évidemment, si on n'a pas 4 personnes avec lesquelles jouer. Et elles sont, d'après ce qu'on a pu tester dans la mission qui est jouable ici, effectivement, je dirais, plus intéressante, pas monstrueusement plus intéressante, mais plus intéressante que les missions qui sont déjà présentes dans les modes PVE sur Overwatch 1, et heureusement, parce que ceux-là ne sont pas super intéressants. Mais je dirais qu'à ce stade, je n'ai pas vraiment de vision claire sur le niveau de rejouabilité. Et comme je le dis souvent dans ce genre de jeu, quand on veut du PVE, ce qui est important, ce n'est pas d'avoir des monstres à tuer, c'est d'avoir une vraie rejouabilité et donc un truc à poursuivre, un truc à chercher.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Avec les personnages. Et là, on sait qu'il va y avoir donc des talents qu'on va pouvoir débloquer, mais il y a genre, sur ce qu'on a vu aujourd'hui, 3 niveaux avec 2 talents à chaque niveau. Donc, ce n'est pas non plus méga, méga customisable. À voir s'ils ont d'autres choses à nous proposer. Ils nous ont dit qu'ils avaient beaucoup d'autres idées pour la progression et beaucoup d'idées pour la rejouabilité. Et effectivement, je vais te donner la parole après, Manu. Effectivement, on a donc ce mode histoire avec un certain nombre de missions qu'on va faire où il se passe, c'est un petit peu scénarisé, il y a des cinématiques, donc il se passe des choses. Et puis après, une fois qu'on aura fini l'histoire, on peut jouer en mode mission de héros, où là, on peut choisir beaucoup plus librement les héros qu'on va utiliser pour jouer ces missions, et puis on va choisir les missions elles-mêmes. Moi, je dirais que l'impression que j'ai, c'est que ce n'est pas un truc qui est un PVE à la Destiny ou à World of Warcraft ou à Diablo ou ce genre de choses. On est plus proche peut-être de quelque chose comme un Left 4 Dead amélioré, j'ai l'impression. Bon, à voir, peut-être bien amélioré, mais on n'est pas dans une expérience PVE, un jeu qui serait vraiment focalisé à fond sur le PVE. C'est quand même à cheval sur ces deux mondes. Manu, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, je pense que tu as bien décrit la différence entre les missions d'histoire et les missions de héros. Alors, effectivement, le staff d'Overwatch a dit que les missions d'histoire ne sont pas pensées pour avoir une énorme rejouabilité. Hein. C'est plus pour faire avancer l'histoire, c'est pour savoir ce qui se passe dans le monde d'Overwatch. Par contre, les missions de héros, tu as mentionné quelques choses qu'on peut choisir pour cette mission, mais on peut choisir parmi tous les héros, il n'y a pas de restriction, on peut choisir la localisation, donc sur quelle carte ça va se passer, l'objectif de la carte aussi, enfin l'objectif de la mission, mais aussi les ennemis peuvent changer, on peut choisir
choisir. Je ne sais pas si c'est quel ennemi exactement ou si c'est genre un type d'ennemi ou c'est.
C'est les groupes d'ennemis, genre les Null Sector, les Talon et d'autres. Ouais.
Exactement. Et en plus de ça, chaque héros que chaque joueur va pouvoir jouer aura effectivement les talents qu'ils auront choisis. Donc ça permettra quand même, en termes de combinaison, ça se compte en millions. Là, on sait. Alors effectivement, je suis assez d'accord avec toi. Pourtant. Ça ressemble beaucoup à du Left 4 Dead. Peut-être avec un peu plus de choses qu'on peut contrôler, ce qui est sympa. Mais c'est vrai que je me demande, dans un an, je suppose que le jeu sort aujourd'hui, dans un an, est-ce qu'on voudra toujours refaire ces missions ?
C'est pour ça que l'aspect progression est important. Il faut qu'on ait envie de rejouer pour... Bah, c'est ça qui motive tous les joueurs. Et on le sait tous, puisqu'on est des joueurs de World of Warcraft. La vraie motivation, malgré tout ce qu'on dit et malgré tout ce qu'on prétend sur les forums, c'est le loot. Et c'est d'avoir des trucs qui vont nous rendre plus forts, plus puissants. Voilà, quand même un petit point d'interrogation sur ces missions. Je précise que les cartes dont tu parlais, ce n'est pas les cartes qui sont utilisées en mode PVP. Celle sur laquelle on joue, qui est située à Rio de Janeiro, elle est vraiment prévue pour la mission. C'est complètement différent des cartes PVP.
Mission de héros, ça sera toutes les cartes PVP et PVE.
Ah d'accord, donc il y aura encore plus de... D'accord. Est-ce que donc, vous avez tous eu l'occasion de tester cet Overwatch 2 ? Impression rapide, je vais aller de Julien à Manu à Julien.
J'ai beaucoup aimé, voilà, on a fait la map effectivement, qui a duré une vingtaine de minutes à 4. C'est plutôt sympa, parce que c'est vrai que quand on le fait la première fois, on ne sait pas très bien ce qui va nous tomber dessus. Donc voilà, très bonne impression, c'est actif, c'est fait avancer l'histoire, c'est très agréable à jouer. Après, voilà, effectivement, je suis curieux de savoir combien on va avoir de missions, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en plus, à quel point l'histoire va avancer. Comme tu en parlais tout à l'heure, Julien, on a envie que cette histoire évolue et cette cinématique donne envie de faire la même chose que dans la cinématique. La cinématique, enfin, celle qu'on a vue ici à la BlizzCon, enfin, c'est popcorn, hein, on s'assied, on regarde, on mange popcorn et on regarde cette cinématique en souriant d'avance parce qu'on sait que ça va être rigolo, on sait que ça va être agréable, ensoleillé. On ne regarde pas une cinématique de WoW ou de Diablo de la même façon qu'on regarde celle d'Overwatch. Et on a envie de voir les petites cinématiques qu'eux vont nous proposer en jeu. Mais c'est vrai que j'ai encore un point d'interrogation. Voilà, est-ce que ça vaudra la dépense ? Est-ce que ça vaudra vraiment le coup ? Est-ce qu'on aura envie d'y rejouer ? On a encore un point d'interrogation de ce côté-là.
La question du business model a effectivement pas été évoquée. On ne sait pas combien il va coûter. On ne sait pas si on devra payer moins si on a déjà Overwatch 1, ce dont je doute fortement parce que Blizzard, faut pas se faire... Depuis le début de l'histoire de Blizzard, quand ils peuvent nous faire payer, ils nous font payer et on paye avec généralement plaisir. Mais, est-ce que ça va continuer à évoluer ? Est-ce qu'il y aura du contenu ensuite ? Est-ce qu'ils vont continuer avec les lootbox ? Est-ce qu'ils vont passer un Battle Pass ? Enfin oui, tout ça, on n'en sait rien du tout. Donc ouais, la mission, je le précise aussi, c'est un peu rythmé quand même, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des boss, il y a des moments où il y a différents types d'ennemis qui arrivent, il y a des mécaniques qui sont, on va dire, des mécaniques de donjons light, où il faut faire des choses spécifiques, donc il y a quand même un peu de potentiel, mais ouais, donc la mission, ce que t'en as pensé ?
Très sympa, vraiment très sympa. Alors si je pense à Overwatch 2, la version PVE, mission d'histoire, comme une campagne globale que tu fais une fois, ou peut-être plus si t'es vraiment passionné, la mission était géniale. Je pense à un jeu comme, je sais pas, Titanfall 2 ou quelque chose comme ça avec la campagne solo. Super, mais vraiment, je me suis éclaté, je suis d'accord avec...
Ah ouais, t'es très positif quand même.
Ah, j'ai adoré, là, je suis d'accord avec Julien, t'as vraiment l'impression dans une Dream Team, tu vas sauver le monde, t'as des choses qui te tombent dessus en permanence et tu travailles avec tout le monde, c'est top. Et en plus, vu que c'est les héros qui sont forcés, bah, chaque héros a ses propres voix et ses propres remarques pendant la mission, c'est génial. Du coup, t'as une super interaction entre les héros qu'on a déjà dans Overwatch 1. Alors là, c'est super, ça le pousse vraiment à une intensité géniale, quoi. Beaucoup aimé, ouais. Beaucoup aimé.
Julien ?
Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment hâte de découvrir l'histoire qui se cache derrière tous ces héros. Je la connais déjà un peu, mais je pense qu'on aura l'occasion d'avoir quelques surprises et c'est une très très bonne chose à mon avis. On parle de dépenses tout à l'heure. Je préfère dépenser des sous dans un jeu dont je sais qu'il y a du contenu solo, qu'il y a une histoire qui a été pensée, plutôt que Overwatch 1 où c'était plus douteux de dépenser des sous dans un jeu où il n'y a qu'un multijoueur et où je dois encore dépenser des sous pour acheter des skins. Donc là, je pense que là, pour le coup, la dépense, elle se justifiera un peu plus facilement que celle de...
Ah, il n'est pas impossible que tu doives dépenser des sous pour acheter des skins dans Overwatch 2 aussi. Hein. Ça, c'est, ça pourrait arriver.
Oui, bah, tant qu'on ne me force pas à faire les missions avec des skins, tu sais, moi, c'est pas trop, trop mon délire, donc je m'en fous. Quoi.
Et c'est vrai que l'autre chose à préciser, c'est que toutes les skins, et enfin vraiment cette synergie entre les deux titres, toutes les skins, on les prend avec nous du 1 au 2, etc. Donc, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, cet aspect qu'on n'a pas évoqué, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être intéressés par le monde d'Overwatch, mais qui ne sont pas du tout intéressés par le PVP, et qui donc, même admettons que ça soit une campagne de, je ne sais pas moi, 7 heures, qui diraient, bah oui, ok, je vais acheter le jeu, je vais faire 7 heures, ça va être sympa, et puis voilà, et puis il y a en plus derrière de la rejouabilité. Ce serait intéressant de voir s'ils vont faire le jeu à 40 euros aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur PC, Overwatch 1 était à 40 euros, ce n'était pas un jeu à 60. Peut-être si on a déjà le 1, 40 euros pour le, du coup ajouter le PVE. Et si on ne l'a pas, bah 60 pour avoir les deux ou un truc du genre. Bon. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des moyens de payer ensuite en plus. De toute façon, ça, Blizzard a bien l'habitude. Bon, on arrive au gros morceau, enfin, après 50 minutes d'émission. Le gros morceau qui est évidemment Diablo Immortal. puisque je veux quand même dire un mot rapide sur Diablo Immortal qui est présent, alors ils n'en ont pas du tout parlé dans la, sur les panels, mais il est présent dans une nouvelle version qui est d'après ce que je comprends assez proche de la version de l'année dernière, et moi j'y suis allé en me disant bon bah je vais tester, je suis pas forcément contre, mais j'ai bien compris que même si c'est un bon jeu mobile, bon, pff, voilà, nous, les core gamers, on s'en fout un peu des jeux mobiles, donc je vais voir ce que ça donne, mais pas plus que ça. Eh bien, figurez-vous que j'ai été très agréablement surpris par ce Diablo Immortal. Je trouve que les contrôles et la manière dont ils ont adapté les contrôles au mobile sont vraiment faits de manière intelligente. Il y a aucune gestion de ressources dont on doit se préoccuper, ce qui fait qu'on a tout fonctionne par cooldown, et donc on peut vraiment se concentrer sur les capacités et les combos qu'on va faire, et les manipulations fonctionnent quand même. Alors c'est pas aussi bien qu'un clavier-souris évidemment, mais ça fonctionne de manière assez satisfaisante. Et moi, j'ai vraiment pris du plaisir là où je ne pensais pas que je prendrais du plaisir sur Diablo Immortal. Alors, je ne sais pas si je vais me précipiter dessus et jouer qu'à ça, mais le fait de se dire que je l'ai sur mon téléphone, avec en plus, il y a des aspects un petit peu sociaux, etc., qui, on en parlera dans Diablo 4, mais je pense qu'il y a une sorte de cross-développement entre les deux dont on ne se doute pas, mais qui est quand même là. Je suis plus intrigué et curieux de Diablo Immortal que je l'aurais pensé en arrivant. Je ne sais pas si vous avez un truc à ajouter sur, sur ce jeu. Ouais, vas-y.
Bah, moi, je suis un peu du même avis que toi. L'année dernière, je l'avais déjà testé dans sa première mouture et tout le monde se foutait un peu de ma gueule en me disant ah, c'est un jeu mobile, c'est naze et tout. Et en fait, je trouve que justement, le mobile, c'est un truc ultra porteur dans l'avenir. Que Blizzard s'y place, c'est cool. Et s'ils peuvent faire des bons jeux en plus, c'est doublement cool. Donc, avoir le modèle économique, parce qu'effectivement, si on se retrouve à faire 3 niveaux, puis à se faire écraser parce qu'on ne met pas 50 euros pour acheter des gemmes ou des cristaux ou je ne sais quelle monnaie, ça va être un peu naze. Mais en tout cas, en termes de gameplay, je trouve que le jeu est super bien adapté. Je retrouve un peu la sensation de spammer comme un gros porc, comme sur Diablo 3, et sans aucune vergogne, et c'est cool. C'est ce qu'on attend d'un Diablo, et pourquoi pas le faire sur un plus petit écran. Et petit shout-out pour les graphistes, parce qu'ils sont quand même assez stylé, et bon, il va dévorer votre batterie, on va pas se mentir, il va détruire ta batterie, mais il est très beau, il est super maniable, reste à voir comment ça va marcher et comment il va être accueilli auprès du grand public. Et je pense que c'est là le plus dur, c'est de le faire accepter par les joueurs. Et oui, Blizzard, c'est plus seulement un éditeur de jeux PC comme ça l'a été historiquement, maintenant ils font aussi du jeu mobile, et pourquoi pas.
Je crois effectivement qu'il y avait cette sensation de frustration évidemment qui a compté de ne pas avoir Diablo 4 et d'avoir qu'un jeu mobile. Aujourd'hui, c'est peut-être plus facile d'approcher Diablo Immortal vu qu'on a eu aussi beaucoup d'autres annonces, c'est certain. Mais oui, malgré tout ça, c'est vrai que moi, j'ai été agréablement surpris.
Je suis d'accord avec toi. Je pense que l'annonce de Diablo 4 rend Diablo Immortal vachement plus intéressant. C'est bête, hein, alors ça, y a aucune raison. Mais je pense que dans la tête des gens, maintenant, ils se disent « Ok, il y a Diablo 4 qui va arriver. Diablo Immortal, c'est une sorte de bonus sympa sur mon téléphone. Pourquoi pas ?» Et en fait, ils pourront très bien tomber dans la bonne surprise vu bah, le jeu est cool. Donc moi, cette année, l'année dernière, j'ai pas pu aller à la BlizzCon malheureusement. Mais cette année, c'est la première fois que je testais Diablo Immortal. Et je me suis éclaté, d'accord avec Julien, l'autre Julien, où j'ai spammé comme un porc, hein, pour reprendre ses mots. C'est incroyable, tu défonces ton téléphone, quoi. Enfin, heureusement pas le tien, c'était le leur, mais je suis content que c'était le leur, hein, d'ailleurs. Hein, mais je me suis éclaté. Or, petite note un peu négative, entre guillemets, c'est que sur téléphone, c'est un peu petit.
Ouais, sur téléphone, ils avaient un écran, je crois que c'était un iPhone 10S ou un truc comme ça. Et c'est vrai que c'est un peu petit, c'est faisable, mais c'est un peu petit. Ouais.
Par contre, sur tablette, mais le jeu est... Enfin, c'est dur d'imaginer que c'est un jeu mobile. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein.
Bah, on a l'impression d'avoir, autant au niveau des classes, des capacités et des graphismes, c'est vraiment Diablo 3. C'est un portage de Diablo 3 imaginé sur mobile. Quoi. Julien, toi, c'est un petit peu Diablo, ton lifeblood. C'est, en deux mots, Diablo Immortal.
Je faisais partie de ceux qui étaient déjà intrigués dès le départ et je ne voulais pas l'enterrer avant d'y avoir joué. L'année dernière, je n'étais pas là. Et bon, pour avoir mis les mains dessus deux fois, une fois sur mobile et une fois sur tablette, et je suis là aussi agréablement surpris et je pense que le jeu a un vrai potentiel. Sur tablette, je l'ai préféré sur tablette par rapport au mobile, clairement. Mais voilà, le fait de pouvoir jouer à Diablo un petit peu n'importe quand... Ben voilà, quand j'aurai pas de Diablo, je serai pas chez moi à jouer à Diablo 4, eh bien je pourrais, bah tiens, je vais me lancer un petit Diablo Immortal et faire un petit niveau. Enfin, on connaît pas encore exactement l'unité du jeu, mais je pense que tous ceux qui vont l'essayer, et ils ont été nombreux à la BlizzCon parce qu'il y a une file permanente du côté de Diablo Immortal, je pense que tous ceux qui en fait n'ont pas rouspété l'année dernière, ben, vont lui donner une vraie chance et seront agréablement surpris. Et tous ceux qui voilà, ont été très frustrés de l'absence d'annonce de Diablo 4. Ils ont un petit peu craché sur Diablo Immortal, mais je pense qu'eux vont être encore plus surpris en se disant, bah, tiens, allez, essayez-le en tout cas, parce que vous allez probablement l'aimer. Donc alors, c'est pas du tout Diablo, c'est pas Diablo 4. Donc c'est plus, on est vraiment, comme tu l'as dit, sur Diablo 3 dans sa poche. Et voilà, les jeux sont assez différents, mais ça reste du Diablo, ça reste agréable à jouer.
Et j'imagine qu'on va en entendre parler dans pas trop trop longtemps d'Immortal. Je pense qu'ils ont retenu la leçon, ils n'ont pas voulu en parler aujourd'hui, enfin hier avec la BlizzCon. Mais je pense qu'on en entendra parler avant, évidemment, les Diablo 4 et les Overwatch 2. Et du coup, sur ce jeu, comme un petit peu tous ceux dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est des trucs qui sont, ouais, c'est sympa à voir. On est positif. En attendant de voir ce qu'ils vont nous montrer de plus sur ces jeux-là. Et du coup, ça nous amène enfin, là, pour de vrai, au gros morceau, Diablo 4. Diablo 4 qui a été annoncé avec une cinématique fantastique, et je cherchais un terme un petit peu plus sombre, tu vois. Mais... un peu gore, ouais. C'est marrant parce qu'il y avait la veille du premier jour des affiches qui disaient si vous êtes avec des enfants et que vous ne voulez pas voir des images un petit peu sensibles, vous pouvez aller dans ce hall-là et il n'y aura pas les images qui pourraient faire peur. Et donc tout le monde s'est dit ok, Diablo 4, là c'est bon, on savait déjà, mais là on sait encore plus. Dragons! Mais alors justement, effectivement, on commence sur cette cinématique de 10 minutes qui est hyper réaliste, c'est-à-dire que les humains ressemblent à des humains, les comportements sont réalistes, les voix sont prenantes, et puis sanglantes au sens propre du terme, et puis, pas terrifiantes, mais... pas dégoûtante, mais aussi un petit peu les deux, un petit peu. J'imagine, moi je suis, comme je le dis souvent, un enfant de Diablo 3. Diablo 1, Diablo 2, j'avais pas beaucoup joué, et c'est avec Diablo 3 que je suis tombé dedans, et j'y ai passé des centaines d'heures, même avant la sortie de Reaper of Souls. Mais j'imagine que pour ceux qui sont... je sais pas toi, Julien, si Diablo 1 et 2, c'était ton truc ou pas un peu. Un ouais. Et beaucoup 3. Mais alors, vous qui êtes plutôt Diablo 1 et 2, j'imagine que ça vous a amené des larmes dans les yeux, quoi, de revoir cette ambiance aussi sombre et sombre et noire, quoi.
Ah oui, complètement. On est vraiment, on revient au gothique, pas qui fait peur, mais qui nous stresse un petit peu en avançant dans les couloirs. Donc, est-ce qu'on n'avait pas trop sur Diablo 3, même si Diablo 3 était sanglant et avait des endroit assez glauque aussi. Mais ici, on est d'autres niveaux de stress, comme tu l'as dit. Mais c'est vrai que la cinématique est merveilleuse et on est passionné en la regardant. Et on se dit, qu'est-ce qui va se passer ? Quand est-ce qu'elle arrive? Et qu'est-ce qui va leur arriver à ces gars-là? Et puis, bon, voilà, Apocalypse, quand on voit arriver le logo Diablo 4, et j'ai hurlé comme j'ai hurlé pour les jeux précédents.
Ouais, c'est quand même c'était un moment particulier, effectivement. Et puis, l'effet de la cinématique a fonctionné avec Lilith qui sort de cette membrane de sang qui devient ensuite une sorte de cape. Visuellement, c'est hyper impressionnant. Et ouais, donc ça fait son effet.
Ouais, moi, j'ai trouvé la cinématique absolument imposante, une émotion incroyable. Ce que je trouve, l'interview du directeur de l'art de Diablo 4, c'est Diablo 3, c'est gore, il y a du sang, c'est tout, il y a tout qui explose, mais ça suffit pas pour rendre le gore et inquiétant. C'est comme aller voir un film d'horreur qui est tout naze, bah vous allez plutôt vous rigoler. Alors c'est gore, ouais, mais ça vous fait pas vraiment peur. Ce qu'il dit, c'est que l'histoire, la façon dont c'est raconté est extrêmement importante. Et je ne sais pas si vous avez réalisé, peut-être que vous réalisez que maintenant, mais Lilith n'a pas dit un seul mot dans la cinématique et j'ai déjà peur. Je ne sais pas ce qui va se passer quand on va la raconter, mais moi, je vais serrer mes fesses. Hein. Je sais pas ce qui va se passer. Je suis tombé en amour devant cette cinématique et devant ce personnage qui, pour moi, est hyper imposant. Je n'avais pas ressenti ça depuis Diablo, à l'époque de Diablo 2. Je suis super impressionné par ce qu'ils ont fait. J'ai qu'une hâte, quoi, c'est de pouvoir jouer au jeu. J'ai mis le main sur les jeux, oh mon Dieu, c'était bien, mais ouais.
Effectivement, on va parler du gameplay dans un instant, mais par rapport à ce que tu disais sur l'ambiance, moi, au niveau des graphismes, j'ai trouvé qu'on était quand même relativement proche de Diablo 3, mais il y a cet attachement à la noirceur qui se ressent dans l'interaction avec les personnages. Il y a des quêtes où on arrive dans un village et il y a la chef du village qui nous dit « Ah, mon fils a des visions, allez le voir. » Et donc le fils est dans la maison et il dit « Ah, il faut que j'aille dans la cave des damnés, des noyés. Tu comprends pas, il n'y a pas de solution. » Donc tu dis « Ok, c'est bon, t'inquiète pas, je vais y aller, je vais gérer le truc, t'y vas. » Puis tu suis des sortes de spectres qui te montrent ce qui s'est passé il y a quelques années avec un enfant qui court jusqu'à un précipice. Il se retourne, il dit « Ah, mais papa, on ne peut pas avancer plus loin. » Et le père qui lui dit un truc du genre « Mais si, mon fils, désolé, mais on peut. » Et il le pousse du précipice et il tombe, il se noie dans le truc pour avoir à bouffer dans le village. Et tu dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Tu finis le donjon, puis tu reviens et tu dis « Bon, ok, au moins, le fils de la chef, c'est bon. On a géré le truc, on a résolu le mystère. » Et en fait, non, t'arrives, il est allongé sur le lit, en train de cracher ses tripes, et la chef dit « Mais je comprends pas ce qui se passe. » Et lui, il fait « Maman, maman !» Et il vomit tout ce qu'il a, et il crève. Mais ça te pénètre, et c'est...
C'est la mère qui dit « Non, non !» et qui s'agenouille, qui tombe, mais c'est... Moi, ça m'a pris au trip. Pareil, tu l'avais raconté avant que je joue. Et quand je l'ai joué, j'étais... Mais ok, je lâche le clavier et la souris. Là, il me faut un petit moment. Là.
C'était... Ouais, donc effectivement, cette ambiance est clairement bien retranscrite. Pour ce qui est du gameplay du jeu en lui-même, ils ont clairement... Enfin, du jeu dans son ensemble, ils ont clairement dit on est dans une optique de retrouver et de prendre le meilleur de l'héritage de toute la série. Et je crois que certains s'attendaient peut-être à ce qu'ils oublient Diablo 3, à ce qu'ils le passent un petit peu sous le tapis. Et ce n'est pas du tout le cas. Ils ont pris alors, l'ambiance des éléments de gameplay de Diablo 1 et 2, mais aussi, très clairement, ce gameplay hyper réussi de Diablo 3, qui a été peaufiné jusqu'à briller comme ce n'est pas possible. Et moi, en tant que joueur de Diablo 3, comme je disais, je suis plutôt de cette génération, je n'ai pas du tout été perdu. Il y a clairement des différences, on sent les différences, mais je n'ai pas du tout été perdu. J'étais même, je me disais, bon, bah, c'est un Diablo 3 un peu différent. Et puis, quand j'ai commencé à un petit peu plus mettre dessus, à plus mettre les mains dessus, j'ai plus vu de différence et on va pouvoir en parler. Mais oui, on n'est pas du tout dépaysé quand on vient de Diablo 3.
Ouais, je pense que ça, c'était presque obligatoire pour Blizzard. Le succès de Diablo 3 a quand même été colossal. Et donc, ils ne pouvaient pas perdre ces joueurs-là qui allaient se dire « Ah non, Diablo 4, ce n'est pas du tout la même chose. Ouais, ça ne me plaira peut-être pas. » Non, je pense que les joueurs de Diablo 3 vont arriver, vont trouver leur petit tout de suite et vont dire « Ah mais non, en fait, c'est presque la même chose. » Sauf que non. Non, dans la pratique, ce n'est pas la même chose. On démarre Diablo 4 très facilement, mais les mécaniques du jeu vont être un peu plus complexes que dans Diablo 3. Et ça va être beaucoup plus riche en termes de gameplay. Donc là, je pense que c'est la bonne approche pour eux, c'est de ne pas effrayer les joueurs de Diablo 3 qui sont énormément nombreux. Mais ils vont apprendre que, ah ben tiens, il y avait les morts uniques. Ah, les morts uniques, c'est quoi? Ben ça a déjà existé dans Diablo 2. C'était un chouette truc. Alors, ils l'ont remis. C'est comme ça pour plein de choses. Donc voilà, le jeu s'annonce très très bon, très très bon, vraiment.
Il y a effectivement les morts uniques qui marchent de manière intéressante. C'est des sortes de runes qu'on va placer dans des slots d'équipement. Et il y a une rune, l'exemple qu'il y avait dans cette démo, une rune de condition et une rune d'effet. Et donc la condition, en l'occurrence, c'était quand on utilise une potion, et la rune d'effet, c'était, bon, il y a une des capacités qui est un peu modifiée. Et donc il y a ce type de jeu qui peut se produire. Il y a les talents qui étaient beaucoup demandés par la communauté qui sont de retour. Des talents qui sont beaucoup plus simples que dans un truc comme Path of Exile, évidemment, mais qui sont quand même présents. Il y a les capacités qui sont assez proches, j'ai trouvé, de Diablo 3. Mais la chose qui m'a frappé, c'est à quel point les mécaniques de jeu nécessitent je vais pousser un petit peu le bouchon en disant une réflexion dans le gameplay. On est niveau 20 dans la démo, donc on n'est pas au endgame. Peut-être que ça changera quand on sera niveau maximum, c'est même possible. Mais on ne pouvait pas spammer les boutons comme on le fait sur Diablo 3. C'était beaucoup plus... Alors, c'est quand même des boucles qui durent 4-5 secondes, généralement. 13 secondes, au pire, 30 secondes pour la capacité vraiment puissante de la démo. Mais on ne peut pas juste appuyer et puis dire bah, « c'est bon, ça va passer ». Il faut se dire « à tel moment, je suis dans telle situation, si j'exagère un petit peu, mais c'est à tel moment que je vais utiliser telle capacité ». Ce qui est une approche, j'ai l'impression en tout cas, un petit peu différente de ce qu'on avait dans Diablo 3.
C'est exactement ça. J'ai discuté avec les développeurs tout à l'heure et eux, le qualificatif qu'ils utilisent, c'est « intentionnel ». En gros, c'est pas « j'arrive, j'appuie partout, je tue tout le monde », c'est « j'utilise ce sort parce que j'ai une raison de le faire. Et si j'utilise mal mes sorts, effectivement, à la fin, je vais me retrouver complètement mort. » Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, plusieurs fois pendant la démo, j'étais avec mon barbare et je sautais un peu n'importe où avec le bond du barbare qui est un sort emblématique. Et à un moment, j'étais deg de ne pas l'avoir parce que je m'étais fait encercler par les créatures et j'étais « ah ouais, bah là, j'aurais pas dû faire n'importe quoi ». Et effectivement, ça a l'air un petit peu plus tactique, un petit peu plus stratégique. Enfin, faut réfléchir à ce qu'on va faire et pas juste cliquer partout parce que voilà, ça brille et ça fait des effets marrants. Et d'ailleurs, à ce niveau-là aussi, ils ont fait pas mal de changements parce que même si les sorts se ressemblent, il y a des nouvelles mécaniques de classe. Par exemple, le barbare, c'est un gros bourrin, il a 4 armes. Et les mages, ils en ont une ou deux, enfin ça dépend, une main gauche, une main droite. Le barbare, il a 2 armes à 2 mains, 2 armes à 1 main. Et il a des armes dans le dos, il a des armes dans les mains et il casse tout. Et là aussi, dans Diablo 3, le barbare, c'était un peu brillant. Genre, ça envoyait des éclairs, des machins. Enfin, c'était un peu le feu d'artifice. Maintenant, dans Diablo 4, c'est complètement différent. Le barbare, c'est un gros bourrin, mais il lance pas d'éclairs. Il arrive, il a une technique qui arrache les tripes littéralement de sa cible. Donc, si c'est un humanoïde, on voit les tripes qui sortent du personnage, qui éclabousse. Ouais. Et le barbare est couvert de sang. Et donc, il y a vraiment une dimension différente. Ils ont réussi à mettre en place des classes qu'on connaît tous et qu'on a déjà joué, Diablo 3, Diablo 2, qu'on a déjà joué, mais on les redécouvre un peu comme ça, parce qu'effectivement, le barbare, en fait, c'est un gros sauvage, quoi. Alors que le mage, il va jamais... Enfin, le sorcier, la sorcière, par exemple, elle va jamais faire ça, elle va rester à distance. Et elle aussi a de nouvelles mécaniques qui font que même si ça nous dit quelque chose, c'est pas la même chose.
Justement, sur les mécaniques de la sorcière, et je sais pas si vous avez joué le druide si vous pouvez en parler un peu, mais la sorcière, il y a des trucs, le Blizzard est beaucoup plus localisé, c'est sur une zone assez limitée, et si les ennemis, on le vise suffisamment bien et que les ennemis sont suffisamment longtemps dans le Blizzard, ils vont être brisés, givrés, ils vont plus pouvoir jouer et on va avoir des effets supplémentaires, des combos à faire. Donc ça joue dans cette idée que c'est intentionnel, il faut le placer au bon endroit. C'est pas juste tu mets ta souris, tu bon, à la louche, ça va les toucher et voilà. Donc c'est un autre aspect de tout ça. Le druide, un mot sur le druide qui est quand même une classe emblématique des anciens que beaucoup attendaient.
Oui, le druide, c'est la même chose que pour les deux autres classes qu'on a pu essayer. Pour réfléchir également, pour lancer tes sorts, voilà, il peut lancer un rocher qui va repousser les ennemis sur pratiquement un écran d'écart. Voilà, si tu rates l'ennemi, bah, l'ennemi va rester collé à toi et tu ne pourras rien faire. Donc il faudra le lancer au bon moment, dans la bonne direction. Et puis bah, ses métamorphoses qui sont instantanément. Et puis tu peux passer de ton apparence humaine à ton apparence de loup ou d'ours en fonction un petit peu de l'aptitude que tu utilises. Et c'est ultra fluide, on passe de l'un à l'autre en un rien de temps, ça paraît ultra naturel. Et ça fait super plaisir de retrouver ce personnage qu'on avait perdu depuis une quinzaine d'années, au moins.
Il y a d'autres éléments aussi qui sont intéressants dans ce Diablo 4, notamment le fait qu'on est dans une mécanique un petit peu open world, mais vraiment, c'est-à-dire que là où Diablo 3, on était dans une sorte de bulle qui se déplaçait sur la carte, là, on a beaucoup plus l'impression que c'est la, je sais pas, c'est difficile à définir, mais c'est la carte qui est là, et puis on peut aller là où on veut sur cette carte, et on a l'impression d'être dans le monde, même si, comme je le disais, bah, ça ressemble beaucoup à Diablo 3 avec beaucoup plus beau. D'ailleurs, les cinématiques en jeu sont super, super belles. On sent qu'on a passé un cap technologique en quelques années. Et puis, il y a cet aspect de jeu social où on a d'autres joueurs qui sont dans notre partie sans avoir besoin d'inviter des joueurs ou de faire du drop-in, drop-out, machin. C'est juste de manière complètement organique. Le jeu va décider à quel moment il va ajouter des joueurs à notre partie. Quand on est dans une mission d'histoire, eh ben, il va nous laisser tranquille. Quand on arrive dans une ville, ben, dans une ville, c'est normal, on a plus de monde, donc on va commencer à voir des gens se balader. Et malgré tout, il n'y aura pas énormément de gens dans la carte, parce qu'ils ont insisté sur le fait que Diablo, c'est un truc quand même un petit peu, c'est désolé, il n'y a pas grand monde, et on ne va pas rencontrer un aventurier à chaque coin de rocher non plus. Mais quand on arrive dans un endroit où il y a un événement, un world event, et il y en avait plusieurs, moi, de manière complètement naturelle, sans même que j'aie à y penser, j'ai commencé à voir des gens qui rentraient dans ma zone, et du coup, on s'est mis à faire l'événement, que ce soit le gros boss ou juste un petit événement, ensemble, et ça crée, c'est presque, moi ça m'a fait penser en moins peuplé, un petit, presque à Destiny, où de manière complètement organique, les événements arrivent et puis il y a des quêtes. Enfin, il y a vraiment un aspect social qui est encore plus poussé que dans Diablo 3, quoi.
Le jeu a un système d'ajout de joueurs qui est complètement automatique, dans lequel, exactement ce que tu dis, on n'a rien besoin de penser. C'est dépendant de l'endroit où on est. Si on est dans le monde ouvert, je crois que le nombre de joueurs sera plus limité que si, par exemple, il y a un gros monstre à aller taper. Alors, en plus, le gros monstre à aller taper, faut bien le taper. Hein.
Et puis, tu es content de les voir arriver, les autres joueurs, quand tu vois la taille du monstre qui t'attend.
Ah ouais, ah non.
Il est tellement grand qu'en fait, ils doivent dézoomer la caméra et on se retrouve tout petit à l'écran parce qu'il est énorme et il fait très mal. Ouais.
C'est monstrueux, d'ailleurs, la tronche du monstre. Vachement sympa, le combat, qui dure longtemps. Hein. C'est pas un combat de 20 secondes. Hein. C'est un combat où on combat pendant 2 minutes 30, 3 minutes, facile. Hein.
Ouais, ce world boss, on a vraiment l'impression de combattre un boss. Ouais. Enfin, c'est pas juste...
Ouais, tout à fait. Et ce que je trouve incroyable dans Diablo 4, c'est que bah, y a beaucoup d'effets qui se passent en permanence, tout le monde attaque, tout. Hein, mais c'est beaucoup moins le feu d'artifice que Diablo 3. Diablo 3, tu vas au niveau, donc, tu joue avec des gens, bah c'est surprise partie partout. Hein. C'est, y a tout ton écran qui explose dans tous les sens. J'exagère un peu, mais Diablo, juste un peu. Diablo 4, c'est propre. C'est propre, tu arrives à bien voir tout ce qui se passe. Les ennemis sont vraiment le focus. Hein, et du coup, c'est, moi, j'ai trouvé ça très agréable à lire. Pour une première expérience de Diablo, quand on était niveau 20, j'étais pas perdu. Quoi. Je savais à peu près ce que les gens faisaient. Quoi.
À noter quand même, comme tu l'as signalé, que là, on n'est que niveau 20, donc peut-être que ça sera un petit peu différent à haut niveau. Mais bon, de tout ce qu'ils disent et de ce qu'on voit, il y a quand même cette intention de réduire un petit peu le niveau des feux d'artifice. Le slider feu d'artifice, ils l'ont ramené un petit peu vers le bas.
Même les couleurs générales du jeu, tout le jeu est plus terne, plus le contraste est plus prononcé. On a plus des démons qui sont rouge fluo, quoi. Concrètement, les démons, ils sont rouges, mais ils sont rouges sales. Le druide utilise des sorts de nature, il est couvert, enfin il est plein de boue. C'est pas très voilà, c'est même les boules de feu, c'est des boules de feu, mais c'est pas du feu illuminer tout le donjon, quoi. Concrètement, c'est une boule de feu et toute simple finalement. Donc il y a aussi il y a un côté un peu plus vraiment dark fantasy même dans les sorts, quoi. C'est pas des sorts qui se font passer pour genre le mage a pas de rayon d'arcane comme il avait avant qui ont un rayon qui illumine la moitié de sanctuaire.
Ouais, t'as pas le rayon laser. Il y a une capacité où tu transformes en boule d'éclair,
là encore, mais là encore c'est pas un éclair qui, enfin c'est une petite boule qui va sauter. Propager des éclairs, mais c'est pas non plus l'explosion d'effets spéciaux. C'est pas, franchement, ils sont vraiment repassés d'un truc Michael Bay à un truc beaucoup plus réaliste et beaucoup plus terre à terre aussi, je trouve. En tout cas, dans la façon d'aborder le jeu.
C'est vrai que c'est peut-être une bonne manière de le définir. C'est ce que j'évoquais avec la cinématique. On a un réalisme dans tout ça qui est assez palpable. La cinématique, on a l'impression, parfois c'est photoréaliste. Et c'est vrai que c'est, bon, sans aller jusque-là, mais c'est vrai que c'est un petit peu le cas aussi dans le jeu. Dernière petite note, il y a le retour des potions de soins. Bon, alors peut-être qu'il y aura des objets plus tard qui fera qu'on n'aura pas besoin de stocker les potions. Mais il y a le retour des potions de soins, la possibilité d'échanger des objets entre les joueurs. À noter qu'ils ont quand même signalé et ils sont bien conscients du fait que ça peut poser des problèmes si on échange les objets parce que ça peut provoquer un marché parallèle et ça, ils n'en veulent pas trop. Donc, ils réfléchissent à des moyens de limiter ça. Mais on pourra échanger les objets entre joueurs. Qu'est-ce qu'il y a, Julien ?
Des ventes.
Non, bah justement, je crois qu'ils ont spécifiquement dit pas d'hôtel des ventes, mais peut-être qu'on pourra échanger qu'une fois ou qu'il y aura un genre, il faut que ce genre de choses, quoi. Ouais, ils ont des limitations là-dedans. Une question dans la partie cinématique de du trailer de gameplay, il y a un personnage qui parle à une tombe. Est-ce que vous avez une idée de qui ça peut être dans cette tombe ? Non. Descartes Kane, moi je suis sûr que c'est Descartes Kane. Voilà, je l'ai dit. Je pense que c'est Descartes Kane et que c'est un type. Et j'adore la manière dont c'est écrit et quand il raconte son rêve et que je suis sûr qu'il parle à Descartes Kane. Mais bon, ouais, on verra. Un dernier mot à dire sur Diablo 4. Content. Bon, encore une fois, c'est une expérience assez limitée. On n'est que niveau 20, etc. Avec toutes ces précautions d'usage. J'ai l'impression que c'était quand même le truc qui a fait le plus plaisir. Qu'est-ce que vous voulez dire en conclusion sur Diablo 4 ?
Ouais, c'était le truc qui m'a fait le plus plaisir. Je m'attendais à Diablo 4, mais c'est vraiment réussi, en tout cas pour le peu qu'on a pu tester. C'est-à-dire qu'il y a la fluidité et les graphismes. Vraiment, je trouve ça assez beau, assez réaliste et super bien fait. Et il y a cet aspect dark fantasy et Blizzard retourne sur un terrain de jeu. Voilà, c'est un jeu à pas mettre entre toutes les mains. Et en discutant aussi tout à l'heure, la grosse différence avec Diablo 3, c'est pas forcément les graphismes, etc., mais ça peut être aussi l'histoire. Parce que Diablo 3, par exemple, on arrête Diablo. Donc il y a ce côté, on sauve le monde, ce genre de truc. Et ce qu'ils veulent faire dans Diablo 4 en racontant l'histoire, c'est que on essaie de sauver le monde. On n'y arrive pas en fait, et du coup on essaie de faire un peu de notre mieux, mais c'est quand même la merde dans tous les cas. En gros, ce qu'il expliquait, c'est que ce que eux veulent pour Diablo 3, c'est qu'on n'ait pas la sensation d'être le sauveur du monde, mais que c'est le monde est dévasté par les démons, par la guerre et ce genre de choses. Et nous, on est juste là pour essayer de faire de notre mieux, mais il y a des fois où même nos actions vont mener à des trucs encore pires que la situation de base, parce qu'on a essayé de sauver des gars et en fait ça fait n'importe quoi et ça se retourne complètement contre nous. Apparemment l'histoire va aller dans ce sens là et j'ai vraiment hâte de découvrir ça, parce que c'est vrai qu'on est maintenant on est des héros un petit peu dans tous les jeux Blizzard où on a sauvé le monde un nombre incalculable de fois et tout, et je pense que ça va être assez rafraîchissant d'avoir un scénario où en fait tout peut se passer et peut-être que on l'impression de faire des bonnes choses, et après avoir joué deux heures, on se rend compte que depuis tout à l'heure on a juste aidé un gars qui était la plus grosse ordure du jeu, et voilà, donc je pense j'ai vraiment hâte à ce niveau-là parce que je pense que ça peut être un tournant pour Blizzard.
Un petit jeu sympathique à faire quand vous sentez pas trop bien, le désespoir incarné.
Super. Ce qu'il disait qu'il voulait faire avec l'histoire de Diablo 4, c'est que, c'est un peu pour rebondir sur ce que tu dis, c'est... Il disait que quand ils avaient lu l'histoire de Diablo 4, qui a priori est complètement écrite, enfin je suis sûr qu'ils la modifieront, on ne sait pas ce que c'est, bien entendu, mais il disait que le directeur du jeu, quand il a lu l'histoire, il a eu les mêmes sensations que la fin de Diablo 1, attention, spoiler, fermez vos oreilles, mais à la fin de Diablo 1, où tu mets, je pense, ça fait 20 ans, je pense que ça l'aura allé, où tu mets la pierre de, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais la pierre d'âme dans ton front, où tu dis, what ? C'est la fin du... Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et il disait, c'est la même sensation qu'il a eue quand il a lu l'histoire. Oui, mais c'est génial, parce que j'ai pas l'habitude que les jeux Blizzard se finissent bien. StarCraft 1 Non, j'ai pas l'habitude qu'ils se finissent... Qu'ils se finissent bien. J'ai l'habitude qu'ils se finissent mal. Diablo 1 se finit mal. Diablo 2 se finit pas génial. StarCraft 1 se finissait pas super. Et moi, j'ai envie que ça revienne. Moi, j'aime bien les histoires où c'est... Parce que ça a tellement plus d'intensité quand c'est pas genre... Vous êtes le sauveur du monde, comme ce que tu disais, Julien. Vous êtes le sauveur du monde. Bon, super, happy ending, tout le monde s'embrasse à la fin. Allez, au revoir, à plus, à la prochaine. Et il y a un dernier truc que je pense qu'ils peuvent faire un truc de fou, c'est que Lilith, dans le lore de Diablo, c'est elle qui a créé Sanctuary.
Donc Sanctuary, c'est l'équivalent de la Terre. Sanctuaire qui est le monde, en fait. Lilith, c'est un démon, elle s'est alliée... C'était qui le l'ange avec qui elle a... Inarius, c'est bien ça. Donc Lilith et Inarius voulaient se échapper au conflit éternel entre les anges et les démons et ont créé Sanctuaire avec les humains pour avoir une sorte de havre de paix. Elle n'a pas l'air d'être super paisible quand elle revient. Là. Je crois qu'elle a un peu changé d'avis quand même, mais... Donc ça pose des questions. Ouais.
Elle a l'air vénère, ouais. Et du coup, mais c'est génial, parce que ça veut dire que toi, en tant qu'humain, enfin en tant que Oradrim, je crois que c'est dans les habitants de Sanctuaire... Qu'est-ce que ça... Néphalem, pardon.
Les Néphalem, c'est les héritiers des anges, mais tous les humains ne sont pas des Néphalem.
Bon, bref, les gens, quoi. Hein. Bob le mécano. Qu'est-ce que ça signifie pour Bob le mécano ? Moi, si j'ai l'impression que mon monde il va exploser ou il va être détruit, je vais un peu stresser. Je ne vais pas super bien dormir, quoi. Hein. Ce qui veut dire que je ne vais pas dormir du moment où j'achète Diablo 4 et je le finis, quoi. Ça,
bon, Julien, le dernier mot sur Diablo 4 ?
De ce qu'on a vu jusque-là... Quelques conférences et la démo, c'est le Diablo qu'on attendait. À première vue, c'est exactement ce qu'on avait envie de voir.
Ouais, moi, j'étais à un moment, je me disais, est-ce que ça serait intéressant de faire un truc en troisième personne ou un autre ? Et puis, en fait, c'est vrai que j'ai été conquis, quoi.
Ouais, d'ailleurs, ils ont commencé une des conférences en disant, c'est un jeu en vue isométrique, c'est un ARPG. Donc, c'est la même chose, les gars. Vous n'allez pas vous retrouver avec quelque chose d'autre. Et ils ont tiré juste sur tout ce qu'ils ont montré jusque-là, et sachant qu'on n'a pas vu grand-chose. Donc s'ils sont parvenus à faire la même chose pour le reste, on risque de peut-être tenir le meilleur des quatre jeux avec ce Diablo 4. Donc ça peut être totalement monstrueux, hein. C'est vers ça qu'on risque de tendre.
Que d'espoir qui... On peut nourrir de l'espoir, mais est-ce que ça ne serait pas la chose la plus diabloesque qui soit de nous décevoir cruellement au final ? Bon voilà, donc on n'a pas d'infos sur le business model. Évidemment, ça sera un jeu vendu 60 euros comme tous les jeux de la Terre. Mais après, on peut facilement imaginer qu'il y aura une monétisation sur le plus long terme, comme tous les jeux Blizzard aujourd'hui. On sait.
On est sûr qu'il y aura des extensions sur maintenant courant évidemment. C'est... Sur extension.
Alors, est-ce qu'il y aura des extensions et des Battle Pass On ne sait pas, mais d'accord, donc il y aura effectivement des extensions. Et il y a un autre truc que je voulais dire et que j'ai oublié. Bon, bah, ce n'est pas grave parce qu'on arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous les trois d'avoir pris ce moment pour faire cette conclusion traditionnelle. C'est toujours en note finale. C'est toujours un super moment que je passe avec vous et qu'on passe tous ensemble dans cette communion heureuse de la BlizzCon. Je crois qu'on est tous contents d'avoir pu mettre de côté les soucis du monde pendant un petit week-end et d'avoir pu geeker sur des jeux sympas et des annonces intrigantes. Ensuite le monde revient dans quelques heures, un ou deux jours, mais là c'est comme toujours des moments un petit peu suspendus comme ça, et ça me fait très plaisir que vous soyez joints à moi. Avant de se quitter complètement, est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver, à commencer par Zekaria?
Alors on peut me retrouver sur les sites du réseau Mammutwing, donc mammutwing.com, hearthstonedex.com et overwatchworld.com. Et sur YouTube, donc chaîne YouTube Mammutwink, sur laquelle on fait des vidéos. Alors là, c'est pas du jeu vidéo, c'est de l'histoire et de l'aventure.
Oui, et tiens, d'ailleurs, j'ai même pas mentionné qu'il n'y a pas eu Diablo 2 remaster, il n'y a pas vraiment eu de news sur Warcraft 3, au-delà du fait que la bêta commence, etc. Donc il y avait des trucs qui n'avaient pas été mentionnés. Mais... on oublie sûrement des choses, mais ce qu'il ne faut pas oublier, donc, c'est Mammutwink qu'il faut aller visiter. Manu, c'est Judge Heap, mais je sais pas.
Oui, bah c'est Emmanuel, c'est Judge Heap. Bonjour, je m'appelle Judge Heap. C'est Emmanuel ou Lona sur judgeheap.com. Vous pouvez aller voir sur le site, mais je pense que Julien fera encore une meilleure présentation.
Ouais, bah sur Judge Heap, judgeheap.com et sur les réseaux sociaux avec le même nom.
Le site de la communauté Blizzard francophone, évidemment, à ne pas rater. Je mettrai le lien vers les comptes Twitter dans les notes de l'épisode. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Les notes de l'émission et les commentaires, vous pouvez venir les faire sur frenchspin.fr. Et n'oubliez pas que si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez le faire sur patreon.com/rdvjeu. Le Patreon a été lancé il y a quelques semaines et merci aux nombreux auditeurs qui y participent déjà. Allez y faire un tour parce que vous pouvez avoir non seulement la satisfaction de soutenir l'émission, mais en plus encore mieux, des contenus bonus comme par exemple toute une semaine BlizzCon où j'ai mis des éditos spéciaux, où j'ai raconté ma semaine, j'ai fait, bon les prédictions elles vont être marrantes à entendre maintenant, et puis j'ai fait des éditos chaque jour de la semaine avec des trucs qui je pense pourront vous intéresser pour voir les choses de l'intérieur, passer derrière le rideau. Et vous pouvez écouter ça sur votre app de podcast avec le podcast privé donc des Patriotes. Et bien sûr, d'autres petits bonus, participer à la communauté merveilleuse des gens qui écoutent l'émission et qui soutiennent l'émission. Donc allez voir ça sur patreon.com/rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission. Je vous remercie hyper chaleureusement et je vous donne rendez-vous dans quelques jours seulement pour un épisode, puisque celui-ci est spécial, mais on aura un épisode classique avec plein de news dans quelques jours à discuter et à vous offrir. Allez, à très vite. Ciao, ciao.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast,
new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.